Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, icimaintenant.com pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité, en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site Internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant par Île-de-France, icimaintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de la semaine, 17h30, 19h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte et Annick. Bonsoir mesdames.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Pour nous parler de la méthode Brofman-Cormier-Roir, l'occasion de savoir, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Hein.
3 ans.
Ah bon, t'as compté?
J'ai compté, c'était 2010.
Le temps passe.
Le temps passe. Hein.
Bénédicte, Annick, de cette pratique qui est la méthode Brofman, appelée aussi Cormier-Roir.
Oui.
Oui. Donc, l'occasion pour vous, vous avez été faite de rencontrer un homme. Je vous laisse nous dire un petit peu comment s'est passée votre histoire personnelle. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il en a résulté pour vous, la conscience que cela a pu faire naître en vous, la vision du monde donc qui a changé pour vous, et surtout de votre corps, mais pas seulement le corps physique, pourrait-on dire.
Ok. Donc moi j'ai rencontré Martin il y a 22 ans, je pense, et j'étais comme beaucoup de monde en recherche de réponses spirituelles, et je crois que j'avais dit ça la dernière fois, j'étais 15 ans dans une école catholique et que j'ai beaucoup aimé, mais j'avais pas reçu toutes les réponses à mes questions sur le sens de la vie et tout ça. Et quand j'ai fait mon premier stage avec lui, c'était comme si je recevais plein de pièces de puzzle et qu'elles s'attachaient les unes aux autres et les choses prenaient un sens. Donc c'était.
Qu'est-ce que mettait en avant Martin à l'époque?
Disons que il s'est guéri d'un cancer à son stade terminal. Et il a créé sa propre méthode basée sur son expérience personnelle et puis toutes les guérisons qu'il a données aussi. Donc c'était en 75, on lui avait donné 2 mois à vivre. Il avait une tumeur au niveau de la moelle épinière. Et puis les médecins lui ont dit que s'il survivait à l'opération qu'ils allaient lui faire, il risquait d'être paralysé.
Tétraplégique ou paralysé. Voilà.
Et puis, quand il s'est réveillé de l'opération, ils lui ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre la tumeur parce qu'elle était dans la moelle épinière. Donc, ils lui ont dit, vous avez maximum 2 mois à vivre, à moins que vous éternuiez, et là, vous risquez d'y rester. Donc, il a, à ce moment-là, vécu... chaque seconde comme sa dernière seconde, chaque minute comme sa dernière, et etc. Et puis, plusieurs mois après, il était toujours en vie. Enfin, je vous passe tous les détails. Et puis, un jour, il célébrait le fait d'être toujours en vie au Club Med à la Martinique. Et dans ce Club Med, il y avait un homme qui enseignait la méditation, un moine zen qui enseignait la méditation. Et puis, il lui a dit, le cancer commence dans ton mental, si tu veux t'en débarrasser, c'est là qu'il faut aller chercher. Et pour lui, c'était la première fois qu'il y avait une alternative à la mort qui s'ouvrait à lui. Alors évidemment, il a plongé là-dedans. Et à l'époque, ce qui existait sur le marché en matière de travail sur la conscience, c'était la méthode Silva. Donc il a commencé avec ça. Et puis, d'abord, il a guéri du cancer. Quand il est retourné voir les médecins, ils se sont grattés la tête et ils ont dit « on ne comprend pas, on a dû faire une erreur ». Et avant qu'il ait pu expliquer qu'il avait fait ce travail personnel, le médecin était sorti de la pièce.
Combien de temps ça a pris pour qu'il fasse ce travail personnel, pourrait-on dire ?
En tout, donc ça a dû 8 mois, un petit peu moins d'1 an, on va dire. Mais du moment où il a commencé à utiliser les outils, Silva, jusqu'à sa guérison, ça a pris 2 mois. Pour vivre la scène qu'il avait visualisée, il a utilisé ses outils où on travaille sur la visualisation créatrice, la reprogrammation positive, etc. Et puis, un effet secondaire de sa guérison, la cerise sur le gâteau, c'est que sa vue était redevenue normale. Et ça a été le point de départ de sa recherche. Il a regardé qu'est-ce qui s'était passé dans sa conscience pendant toute cette évolution. Et c'est là qu'il a créé l'atelier de la vue pour aider les gens à améliorer ou à guérir leur vue avec cette idée que tout commence dans la conscience et que c'est là qu'il faut aller chercher et que notre façon de voir physiquement, c'est notre façon de voir le monde. Donc il y a une manière d'être associée à chaque symptôme de la vue. Et ensuite, il a élargi sa recherche à tous les symptômes. Et c'est là qu'il a créé le système corps-miroir, donc qui est basé sur cette idée que on peut lire le corps physique comme une carte de la conscience qui se trouve à l'intérieur pour voir quelles sont les causes intérieures aux symptômes extérieurs.
Annick, tu nous dis avoir grandi dans une effervescence où la foi était très importante pour
toi.
Oui.
Au
sorti de là, et de ce que tu as pu avoir comme nourriture, tu nous disais, je cherchais d'autres réponses à mes questions, mais pourquoi se tourner vers ce qu'on pourrait qualifier Martin de guérisseur ou ayant une pratique qui, j'allais dire peu conventionnelle, c'est rien de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour s'ouvrir à ce genre d'options, si je puis dire, le fait qu'un homme ait pu se guérir du cancer par une pratique qui vise se reprogrammer, on aura l'occasion de toute façon d'y revenir. Qu'est-ce que ça, comment est-ce que tu as eu connaissance de lui, et puis pourquoi t'orienter vers cet homme et ce qu'il a pu créer comme pratique alors que tu aurais pu aller n'importe où ailleurs.
Pour être honnête, quand j'ai assisté au stage, j'ai suivi ma secrétaire, j'étais assistante sociale à l'époque, et ma secrétaire avait fait un stage parce qu'elle avait son fils avait de l'asthme et elle l'avait amené voir un gars qui avait fait un stage avec Martin et l'asthme a disparu. Donc elle était curieuse, elle est allée faire un stage avec lui et ensuite elle m'a dit il faut absolument que vous veniez. Mais quand je suis allée faire le stage, j'avais aucune idée de quoi ça parlait pour être honnête. Donc je suis tombée dedans et c'est bien plus que la guérison, c'est bien plus que le travail sur le mental. On apprend à ressentir l'énergie, à diriger l'énergie, donc on a tous... c'est pas un don, la guérison, c'est un talent, on vient de tout ce monde avec. Et puis il y a des gens qui ont envie de le développer, d'autres pas. Moi je me souviens, quand j'étais dans cette école catholique, j'avais une foi immense. Et j'étais fascinée par Jésus qui était capable de guérir les gens. Mais évidemment à cette époque-là, c'était la guérison, le magnétisme, c'était réservé aux saints ou... Et quand j'ai fait ce tout premier stage, je pourrais dire, si je regarde les choses d'un autre niveau, j'étais guidée dans cette expérience parce que j'avais la réalisation de plein de rêves en même temps. La première fois où j'ai senti l'énergie dans mes mains, je pleurais, j'avais les larmes qui coulaient pendant tout l'exercice, c'était tellement émouvant. J'avais, je sais plus quel âge j'avais 24 ans, peut-être 25 ans, et c'était, je vais pouvoir guérir la terre entière. Mais ce qui est spécifique, je dirais, à cette méthode, c'est pas seulement d'utiliser l'énergie, c'est de aussi voir quelle est la cause du symptôme, de façon à pas retomber dans la manière d'être. Parce que quand on reçoit une séance de magnétisme, on se sent bien après, mais c'est facile de retourner dans la vieille façon de voir les choses et on recrée les mêmes symptômes, tandis que si on connaît la cause, alors on n'est plus sur le siège conducteur de sa vie. On se voit plus comme le créateur et c'est une autre démarche qui est plus profonde, je dirais.
Et dans quelle mesure est-ce que cette vision du monde, pour l'appeler ainsi, est venue bousculer la vision que tu avais? Alors si tu arrivais dans cette formation comme un cheveu sous la soupe, tu ne savais pas trop, bon, tu as suivi ton ami qui était secrétaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que puisque tu parles de la cause et non pas tant des symptômes, et de l'implication que cela a en tant que notre responsabilité de ce qui nous arrive, ça vient quand même chambouler beaucoup de choses d'un point de vue de l'ordre établi, si je puis dire. Donc comment peut-on s'ouvrir à cela, ne serait-ce qu'à cela, sans parler de sentir l'énergie qui coule ou pas dans ses mains, mais...
Oui, je comprends. Pour moi, ce qui s'est passé, ce qui a donné de la validité, c'est que à une époque dans ma vie, j'ai développé de l'astigmatisme. Et quand j'étais en fac de droit à Aix, et quand je suis partie de cette fac, je suis allée à l'école d'assistante sociale à Nice, l'astigmatisme a disparu. Et c'était bien avant que je fasse mon tout premier stage. Et quand j'ai fait le stage et que Martin parlait de la manière d'être associée à l'astigmatisme, et ça tombait vraiment pile poil sur le type de personnalité que j'avais développé dans cette fac et le fait de revenir à la maison quand je suis allée à l'école d'assistante sociale.
Tu te rappelles de ce que symbolise, je dirais, la stigmatie?
Oui, c'est quelque chose qu'on enseigne dans la tuile de la vue. L'astigmatisme, c'est une vision déformée des choses, hein, au niveau physique, mais dans la conscience aussi. Ça se produit dans la vie des gens à un moment donné où ils changent de valeur, ils s'adaptent à des valeurs qui ne sont pas les leurs. Donc si on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu penses de ceci, ou qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ressens, il y a quelque chose qui vient, et la personne décide, c'est pas approprié de dire ça, ça va pas passer, je vais dire ça à la place, pour se mouler. Et puis le problème, c'est que la personne, pour persuader l'extérieur, elle se persuade elle-même que c'est bien ses propres valeurs. Et c'est là que la confusion démarre. Donc pour moi, dans cette fac de droit à Aix, les valeurs, elles étaient à l'opposé des valeurs avec lesquelles j'avais grandi. Mais j'avais tellement envie de me sentir bien dans cette fac. Et quand je l'ai quittée, que je suis allée à Nice, c'était, je retrouvais mes valeurs. Vous savez, l'école d'attente sociale, c'est comme l'école catholique. Hein. C'est bonne sœur, sauf qu'on peut avoir des enfants, je dis toujours. Mais c'est la même chose. Donc c'était un retour à la maison. Donc avec la vue, on dit, quand on a un symptôme de la vue, on se perd de vue. Donc quand on revient à la vision claire, on se retrouve. C'est un processus qui est très très joyeux. Donc pour moi, ça correspondait à ça. Et puis c'était aussi une autre dimension. Donc il y avait cette dimension de la guérison, parce que j'admirais tellement Jésus, j'étais vraiment dans ce trip-là hein, quand j'étais gamine. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 18 ans, mon grand-père est mort, et du jour au lendemain, je suis devenue athée, parce que Dieu m'avait pris mon meilleur ami. Et quand j'ai fait ces premiers stages, j'ai retrouvé cette connexion, non pas avec un Dieu comme en lequel je croyais à l'époque, hein, ce vieux bonhomme avec la barbe blanche sur son nuage. C'était cette connexion avec un autre niveau d'intelligence et quelque chose qui correspond à... Si vous voulez, c'est des choses qu'on sait. Donc quand on en entend parler, c'est pas genre on découvre quelque chose, c'est quelque chose qui sonne juste à l'intérieur. Quand on dit nous sommes tous un, et d'en faire l'expérience, il y a des gens qui en parlent, qui disent oui c'est très bien, on est tous un, tu es Dieu, je suis Dieu, mais c'est juste une idée, c'est juste mental.
Oui.
Mais d'en faire l'expérience, de sentir l'unité avec quelqu'un. Donc pour moi, ça m'a permis aussi de retrouver ce sens de foi. Et pour moi, c'est une foi dans mon esprit, une foi dans mon âme, une foi dans le « je suis ». Et c'est la même foi que celle que j'avais en Dieu quand j'étais dans cette école catholique. C'est du pur bonheur.
Juste avant de pouvoir aborder Bénédicte, il y a quelque chose qui est très intéressant. Pour ceux qui sont sur une démarche de développement personnel ou d'éveil, si tant est qu'il y a une quête à faire... qui recherchent, certains recherchent ou attendent d'avoir des expériences transcendantales, de fusion avec le tout, etc. Et qui n'y arrivent jamais malgré un ascétisme, malgré toutes sortes de pratiques qui sont très dures parfois, de méditation, de position. Et là, tu nous parles d'expériences que tu as faites. Alors, si certains cherchent, font de ces pratiques, ils n'arrivent pas à avoir cette expérience au-delà du mental, et que tu nous dis avoir fait ce genre d'expérience, dans quelle serait la raison de cette expérience, ou quelles sont peut-être, je sais pas, de ce que tu peux nous en dire, ou l'explication que tu peux en avoir.
Il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui ont, si vous voulez faire l'expérience, il y a des expériences qui ne sont pas considérées ordinaires, et dont les gens ont un petit peu peur. Donc ce sont des états de conscience où sur le moment on est vraiment dans un autre univers, on va dire, hein. Mais y a des expériences que l'on fait je dirais de manière journalière, mais on s'imagine pas que c'est non ordinaire, comme par exemple quand vous pensez, vous vous posez une question et la personne à côté répond à votre question. C'est dans ce moment-là, vous partagez la même conscience. C'est comme s'il y a ce dialogue et il n'y a pas besoin de méditer pendant 40 ans. Je pense que c'est parce que le monde spirituel a un peu mystifié tout ça que les gens en ont peur aussi. Mais il y a plein d'expériences qui sont... si on parle de chakra, par exemple, il y a toutes ces valves dans notre flûte. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Mais je dirais que il y a beaucoup de gens qui pensent que... Qui voit une séparation entre les expériences ordinaires physiques et les expériences non ordinaires, et ils pensent qu'il faut être complètement en dehors de la réalité physique pour être spirituel, alors que c'est pas le cas.
Donc ce que tu dis, si je me permets de te couper, c'est que tout à chacun au quotidien avons ces expériences-là, mais elles nous sont tellement ordinaires, au même titre qu'on va se rendre à son travail en ne faisant pas attention à l'arbre, aux oiseaux, au ciel, et qu'on marche tête baissée en pensant à ce qu'on va devoir faire demain ou ce que j'ai dû faire la veille, que finalement on loupe l'essentiel de cet instant présent, et donc de vivre ce cadeau qu'est l'instant présent, et donc cette expérience qu'on pourrait avoir. C'est ça. Est-ce que c'est un peu ça de ce que tu nous en dis?
C'est pas vraiment ça, je vois pas trop la connexion avec ce que je disais, mais bon, l'instant présent, c'est vrai que c'est... C'est l'état dans lequel on peut être en contact avec notre petite voix intérieure, où on peut avoir cette vision claire, où on est plus en contact, nos sens sont plus vifs, effectivement.
Je mentionnais ça dans le sens où, de ce que tu nous en disais, il y avait j'ai eu le sentiment derrière de... que ces expériences-là, finalement, étaient à la portée de tout le monde. Elles étaient dans notre vie au quotidien, et qu'il n'y avait pas besoin d'être en quête, que c'était... Alors, tu parles d'ouverture de cœur, d'ouverture de conscience.
C'est juste qu'il y a certaines de ces expériences, comme le tantra, par exemple. Tu peux te regarder dans un miroir, tu te regardes profondément dans les yeux, et puis tu peux avoir l'expérience de voir plein d'autres personnes, ou tu peux regarder une autre personne dans les yeux et voir ton propre visage au bout d'un certain temps. Donc, ce sont des expériences qui sont faciles. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas besoin de méditer pendant 40 ans pour arriver à faire ces expériences-là. Je pense parce qu'on a beaucoup mystifié tout ça, mais si on démystifie, ce sont des expériences qui sont... C'est comme voir les auras. Il y a ces autres valves, ces autres dimensions de notre conscience. C'est pas déconnecté du monde physique. On peut être fonctionnel, faire ses courses au supermarché et être quelqu'un de très très spirituel. C'est juste, pour nous, notre langage, c'est les chakras. Donc avec ces sept valves, on peut passer de l'une à l'autre, et y a pas, y a des gens qui sont que dans les chakras du haut, on va dire, et qui n'ont pas de racines. Et à ce moment-là, ils peuvent avoir peur d'être fou. Il y a ce paradoxe avec la folie. Donc il y a des gens qui sont des génies, qui sont dans les hôpitaux psychiatriques simplement parce qu'ils n'ont pas de racines. Et puis il y a le contraire, il y a des gens qui sont que dans la réalité physique, et tout ce qui est spirituel, ça leur fait peur. Mais je crois que c'est aussi les religions qui ont créé ça. Je veux dire, c'est les religions, leur rôle normalement, c'est de nous apprendre la nature spirituelle de notre être et ce qui se passe après la vie et tout ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça, hein.
Bénédicte.
Quand tu parles d'expérience, ça dépend du but que se mettent les personnes, que les personnes se mettent dans la conscience. Si tu parles, je sais pas moi, d'un moine qui va aller, je sais pas, en Thaïlande, qui va méditer pour atteindre, ou si tu parles de un Français qui va vouloir absolument atteindre, je sais pas moi, l'éviter, enfin tu vois, et c'est dans quel sens il cherche cette expérience. C'est ça qui est important, et je pense que c'est ça qui est intéressant de clarifier, tu vois, parce que c'est pas l'expérience en elle-même qui est importante ni intéressante, en fait c'est le chemin qu'on prend et où est-ce qu'on veut aller avec. Mon point de vue là-dessus.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de noter, finalement, entre ceux qui cherchent, qui sont dans cette pratique-là, et l'exemple de Danick qui nous dit, finalement, c'est quelque chose à la portée de tout le monde, quelque chose que l'on aurait oublié. C'est des pratiques.
De quelle expérience tu parles ?
Il n'y a pas de définition, hein. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas mentionné de. S'il s'agit de lire les auras, de pouvoir rétablir, s'il s'agit de pouvoir rétablir la vue, de pouvoir se rectifier par rapport à certaines pathologies de notre corps, mais en même temps que cette rectification implique une ouverture de conscience, là c'est d'autant plus intéressant. Et c'est dans ce sens-là que je me mettais en avant. Donc la question que je pose, c'est. Dans quelle mesure est-ce qu'il est simple ou compliqué de pouvoir s'ouvrir à ces dimensions-là, alors que d'autres, qui sont purement et simplement non pas dans l'ouverture de conscience, mais simplement dans le fait « je veux obtenir un résultat et j'y passe X temps, années, et c'est pas pour autant qu'ils vont y arriver d'ailleurs
». Mais quel résultat ils veulent obtenir ? Si c'est la guérison de la vue, si c'est voir des auras, si c'est se sentir illuminé, si tu vois,
ça dépend de la motivation qu'ils ont. Il y a des gens qui sont dans cette démarche, comme disait Bénédicte, qui sont dans cette démarche de recherche spirituelle et tout ça. Et puis il y a des gens qui ne sont pas du tout dans ce truc-là. Et puis qui, à un moment donné, tombent malades et puis la médecine ne leur offre aucune option.
Comme Martin. Ouais.
Donc, comme Martin. Et donc, ils ont entendu parler d'eux et ils explorent une alternative. Mais c'est vrai que c'est aussi une question de confiance, de motivation. Il y a des gens qui viennent... C'est vrai que cette orientation sur le fait que tout commence dans la conscience, c'est quelque chose qui doit se faire dès le départ, et parce que c'est vrai que les gens sont habitués à se voir comme victimes du temps, de l'âge, des circonstances, de l'extérieur. On met les causes à l'extérieur dans la réalité physique. Hein. Et quand on met les causes à l'intérieur, c'est pas, c'est on va dire la responsabilité sans la culpabilité. C'est la responsabilité dans le sens où... si on est le créateur, alors on peut faire quelque chose. Et y a une infinité de réalités différentes. Donc dans cette réalité-là, notre point de départ, notre squelette, c'est tout commence dans la conscience. Et on part de là. Et on explore. Et les gens qui ont envie d'explorer voient à quel point ça se passe. Alors c'est vrai qu'au départ, comme tout le monde, on se dit « ah mais oui, mais un bébé, ah mais oui, mais ceci, ah mais oui, mais quand il y a cette catastrophe. » ce qu'on fait, enfin moi ce que j'ai fait, c'est que quand vous le faites pour vous, par exemple, tu te mets sur le siège conducteur, tu regardes ta vie comme ça, et puis tu vois, bon, il n'y a pas de hasard, quoi, il n'y a pas de coïncidence, et si c'est vrai pour ça, alors c'est vrai pour tout. Et c'est juste au bout d'un moment... Il y a cette confiance qui est là où tu te dis c'est juste comme ça, c'est tout qui est comme ça. Il y a cette orchestration parfaite qui est là. Et la question, c'est s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça fonctionne ?
Comment est-ce que Bénédicte, on va dire la méthode Brofman, arrive dans ta vie, sur ton chemin ?
J'ai rencontré Martin en 1993, donc suite à ça, je l'avais dit aussi, donc à une dernière émission avec toi, à une guérison que j'avais reçue. Et ce qui m'a donc interpellée, c'est effectivement de voir à quel point le tout avenant peut utiliser des méthodes énergétiques et avoir du succès avec ça, puisque pour moi, c'était une guérison qui était vraiment forte sur le plan physique.
On peut savoir ce que tu avais ?
J'avais notamment des verrues partout, même sur le visage. Et donc là, j'en étais à j'étais très malheureuse. C'était, tu vois, une... Bon, quelque chose quand tu as 23 ans, que tu es ado, sorti de l'adolescence, c'est un peu particulier. Et donc, tout est parti en l'espace de 15 jours. Alors, on peut dire psycho, tu vois, etc. Mais quoi que ce soit et quel que soit le symptôme, pour moi, c'était tellement important parce qu'en fait, avec les lasers à l'époque, ou je ne sais plus, la neige carbonée, ça ne partait pas, ça faisait mal et tout.
Bon, comment t'as eu, à 23 ans, comment est-ce que tu as eu connaissance de Martin ?
Donc, c'est ce fameux copain qui passe par la maison et qui me donne une guérison. Et... Donc je suis interpellée par le résultat, par le fait que effectivement avec lui j'avais des très bons contacts et de très bons échanges au niveau de expériences spirituelles, etc. Mais c'est tout et c'était très restreint les gens avec qui je pouvais partager ça. Et là aussi, tu vois, il y avait cette histoire de but. Ok, je le vivais, mais dans l'absolu, ça m'amène quoi? tu vois. Et là, on me dit, ok, c'est un Américain, non seulement il intègre tout ça, mais en plus, c'est le côté américain où on fixe un but, et puis de là, on commence à travailler dans sa propre conscience avec des outils qui nous sont donnés, et c'est là où je rejoins tout le dialogue que vient de tenir Annick par rapport à le fait d'être créateur de sa réalité, et là tu peux commencer à capter le un aussi, le tout. Et donc j'ai tout de suite appris, parce que ça m'a parlé à plein de niveaux de conscience, parce qu'effectivement ça m'a ce sont des stages dans lesquels j'ai eu pas mal de réponses, et puis parce que j'ai trouvé une voie professionnelle aussi, enfin, tu vois, après avoir fait du théâtre, de l'histoire de l'art, je cherchais un milieu qui me convienne, ça n'allait jamais. Et là, oui, là, c'était super. On y va, quoi. J'étais heureuse, ça me correspondait. Donc, j'ai tout de suite commencé à donner la guérison en séance privée. C'était magique. Les gens appelaient, ils pensaient parler peut-être à une femme, genre les cheveux gris, longs, les cheveux plombs, oui. Et ils arrivaient, et quand j'ouvrais la porte et bonjour pour votre guérison, rien que de me voir, ils étaient guéris. Ils voyaient une gamine de 23 ans, plutôt sportive, plutôt sexy, etc. Et qui leur avait tenu des propos au téléphone tellement profonds et qui leur parlait tellement fort.
T'as pas changé, Ben.
Merci. Et voilà. Et donc, par rapport à tout ça, pour moi, c'était OK, j'ai une ouverture d'être qui je suis en France, et avec tout le respect que je dois à notre société, mmh. et à notre médecine traditionnelle, et que je remercie tout le temps, parce qu'il y a plein de magiciens dans ce milieu aussi, etc. etc. On pourra peut-être y venir plus tard.
Ouais. Enfin, voilà. Je fais une parenthèse. Ouais. Quand tu dis que tu as reçu une guérison, qu'est-ce ouais. que ça implique, puisqu'on parle de responsabilité, mm-hmm. quand il s'agit de, ouais. en l'espace de 15 jours que tu as reçu cette guérison, où quand est la on... part du guérisseur et où est ta part?
Le guérisseur, sur le moment, il donne quelque chose. Il est là pour toi, il est dédié. Donc moi, quand je donne une guérison, ou quand Annick donne une guérison, ou donne la c'est guérison une... à un groupe en entier, c'est-à-dire pendant un stage, elle est dédiée totalement, ou je vais être dédiée à un moment donné avec une personne. Je donne. Après, ce que la personne en fait, bah oui, je veux dire, ça ne m'appartient pas. Quand je te fais un cadeau, tu peux mettre à la poubelle, tu peux garder pour toi, tu peux réoffrir à quelqu'un, tu es libre. Voilà.
On voit la guérison comme une co-création.
Alors après, il y a cette, okay. Cet aspect-là.
Donc, si tu veux, parce que je pense que c'est ça ta question.
Oui.
Moi aussi.
Donc, nous sommes tous des créateurs. Donc, le guérisseur, c'est un créateur. Le guéri, c'est un créateur. Et ce que ces deux êtres veulent créer, c'est la guérison de l'un des deux. Et donc, il y a des outils qu'on utilise pour ça. Et ce qu'a fait Martin, c'est qu'il a étudié quels sont les ingrédients qui font que la guérison a les meilleures chances de se passer en une session. Donc en fait, le but ultime du système du corps miroir, c'est créer la guérison en une session. Parce que si tout commence dans la conscience, la guérison, ça demande un processus de transformation dans la conscience, et cette transformation, on peut la faire comme ça. Il y a des gens qui le font. Moi, je me souviens d'un stage à Lyon, il y avait une dame, elle était aveugle de l'œil droit. Après une des guérisons, elle voyait clair. C'est-à-dire, même moi, j'étais épatée. Après, on s'habitue au miracle, hein. Mais la première fois, ça fait un choc. Donc, il y a des gens qui font le saut sans parachute, la transformation comme ça. Et donc, de la part du guérisseur, évidemment, il y a cet ingrédient de foi dans le processus. Et quelquefois, la foi du guéri, c'est elle qui fait tout le boulot. Quelquefois, le guérisseur, il aurait juste à toucher le guéri, et la guérison se fait.
Justement, okay. Jésus disait « Va, ta foi t'a sauvé ».
Oui, exactement.
Donc, qui agit sur qui? Est-ce qu'il se passe réellement parce que...
C'est deux créateurs et qui, si tu veux, c'est un peu comme si le guérisseur extériorisait ses hallucinations. Donc, on parle de nos perceptions qui créent notre réalité, nos croyances, nos mots. Donc, avec notre méthode, on travaille visuellement, on utilise la lumière blanche, les chakras, on utilise les couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est visuel. Et donc, le guérisseur crée la guérison avec ses perceptions. Et on va dire, le guéri est ouvert à cette transformation. Ok. Donc c'est une transformation par accord mutuel, on va dire. Enfin.
Eh bien, l'occasion nous est donnée de faire la première page promotionnelle et
ça
on va continuer.
Vite.
Oui, ça passe vite, une petite demi-heure. Première page promotionnelle. Avec nous ce soir, Annick et Béatrice, Bénédicte, excuse-moi, et Bénédicte pour nous parler de la méthode corps miroir de la Fondation Brofman. Vous souhaitez en savoir plus? Eh bien, je vais vous donner un numéro de téléphone fixe, celui de Bénédicte, qui est le 01 47 70 66 87, que je répète, le 01 47 70 66 87. Deux sites internet. Le premier, c'est www.healer.ch, healer, ce qui veut dire guérisseur en anglais, H-E-A-L-E-R, je répète, H-E-A-L-E-R, healer.ch, la lettre C, la lettre H, notamment celui-ci, www.benergie.fr, benergie, ça va avec Bénédicte, et puis énergie, bien entendu, benergie, B-E-N-E-R-J-I-E.
GIE.
Autant pour moi, on va me disputer quand même.
Nous sommes français.
Benergie.fr. Alors, différents événements que vous proposez aux auditeurs. À Paris, une conférence sera donnée de présentation du système corps miroir. Ça aura lieu le vendredi 22 mars à 20h. C'est dans le 9e arrondissement à Paris. Je pense, Bénédicte, on peut retrouver donc les informations sur le site Benergie.
Tout à fait. Et puis,
sur le site de la Fondation aussi.
Voilà, et je suis disponible au téléphone aussi pour toutes les personnes qui veulent.
Alors, cette conférence donc, du vendredi 22 mars à 20h dans le 9e sera suivie d'un atelier de la vue qui aura lieu le week-end du 23 et 24 mars. Alors, est-ce que c'est obligatoire c'est-à-dire d'abord la conférence, mais on n'est pas obligé de venir forcément.
Exactement.
Ok. Donc, un atelier de la vue le week-end du 23 et 24 mars. Ça sera toujours à Paris.
9e.
Ok.
L'hôtel Mercure, rue de Montsion.
Merci Bénédicte. Yeah. Une conférence suivante qui sera donnée le 19 avril à 20h, guérison avec la lumière blanche. Donc au même endroit j'imagine.
Exactement.
Et ça sera suivi justement d'un stage de la méthode corps miroir, ça sera le week-end du 20 et 21 avril.
Bienvenue.
Ouais. C'est intéressant, j'ai dit pour les gens que ça intéresse de voir à quel point c'est simple de donner et recevoir une guérison, s'ils vont à cette conférence sur guérison avec la lumière blanche, c'est ce qui se passe, les gens viennent à la conférence et échangent une guérison pendant la conférence. Donc c'est chouette.
Annick, Bénédicte, il y a différentes pratiques. Alors, guérisseur, j'ai toujours été très intéressé par ce rapport entre le guérisseur et celui qui reçoit, que ce soit via les guérisseurs du Brésil ou alors en Polynésie ou en Asie d'une manière générale. Enfin, il en existe partout de toute façon. Mais le rapport est très intéressant. On mentionne qu'il est important d'avoir la notion de transfert. Qu'importe le thérapeute, sans pour autant parler de guérisseur, hein, mais le fait d'avoir confiance dans celui qui va être le thérapeute ou guérisseur. Lorsqu'on reçoit une guérison, pour reprendre le terme que tu nous as donné, Bénédicte, dans quelle mesure est-ce qu'il est important d'avoir confiance, si je puis dire, dans celui qui incarne ce rôle de guérisseur?
Disons que une des choses, si on part du principe, on dit tout commence dans la conscience, nos perceptions créent notre réalité. Si tu décides que le gars qui va te donner la guérison, c'est un charlatan qui ne sait pas ce qu'il fait, il te manque l'élément de la foi. Mais c'est un des ingrédients, ça n'est pas le seul. Donc quelquefois, la personne, elle n'a pas vraiment besoin de comprendre ce que tu fais ou d'avoir une foi absolue, de s'attendre à guérir maintenant. Si la personne arrive à comprendre le processus et à laisser la porte ouverte, alors la guérison peut se passer du moment que la porte est ouverte.
Qu'est-ce que ça veut dire, laisser la porte ouverte?
Disons que, tu sais, quand on travaille avec cette idée que tout commence dans la conscience, quand quelqu'un vient nous voir, la première chose, c'est qu'on décrit la cause du symptôme par rapport à ce qui se passe dans la conscience. Et on demande à la personne de regarder qu'est-ce qui se passait dans sa vie au moment où le symptôme est apparu. Et la première chose que la personne fait, c'est qu'elle met en connexion. Elle dit « Ah oui, effectivement, il se passait ça et ça dans ma vie. » Et une fois, même si la personne elle a jamais entendu parler de spiritualité, de quoi que ce soit, du moment où elle arrive à faire la connexion entre quelque chose qui s'est passé dans sa vie et le symptôme qui a commencé à ce moment-là, là, la porte est ouverte, la personne comprend. Donc, c'est dans ce sens-là.
C'est important donc d'avoir la raison pour essayer de saisir, de comprendre, donc avec le mental, le rapport cause-conséquence entre la pensée, notre état d'être ou notre état d'esprit qui aurait créé telle ou telle pathologie.
Oui, parce que ça aide à se mettre sur le siège conducteur et à voir à quel point on peut faire quelque chose. Béné ?
Concernant donc ce que tu disais par rapport à la confiance, est-ce qu'on doit avoir confiance dans la personne. Une personne peut venir parce qu'elle est venir pour recevoir une guérison aussi parce qu'elle a des peurs, et des peurs qui l'empêchent de dérouler sa vie simplement, etc. Et à ce moment-là, elle demande de guérir cette insécurité ou ce manque de confiance. Mais elle peut arriver avec cette incertitude ou ce manque de confiance dans la personne qui la reçoit. Ou quand je reçois quelqu'un qui n'a pas 1000% confiance en moi, je sais aussi que cette personne, elle va guérir ce sentiment-là en elle et que c'est un problème. Et puis voilà, quoi. Ça peut être... Je crois qu'Annick veut rajouter quelque chose.
Non, mais fini, parce que je...
Je voyais ta main, vas-y.
Oui. Non, je voulais... Il y a un truc qui me vient, c'est que... Il y a plein de formes de guérison différentes, il y a plein de façons dont la guérison se passe, et ce que notre système fait, c'est quantifier les ingrédients qui font que la guérison a les meilleures chances de se produire maintenant. Donc quand on arrive à quantifier ces éléments, on peut créer l'environnement consciemment. On peut créer cet environnement dans lequel le guéri a foi dans le guérisseur a foi en lui en tant que guéri, dans ses outils, datatitatata.
Mais ça, c'est ce que tu appelles quantifier.
Voilà, d'accord. Ça c'est quantifier les ingrédients, la foi, tous ces ingrédients. Mais comme je disais, quelquefois un seul des ingrédients suffit. Quelquefois, si le guéri, il sait pas vraiment, il croit pas vraiment totalement dans ce que fait le guérisseur, mais que le guérisseur a une foi vraiment en lui qui est immense, la guérison se passe. Et puis, je me souviens quand j'étais assistante sociale, ma collègue, sa maman était infirmière ici à Paris, et puis elle me racontait qu'une fois, cette jeune maman qui avait un cancer généralisé, et on leur avait dit qu'elle allait mourir dans la nuit. Et il y a un des internes libanais qui s'est pris de pitié pour cette femme, et il a passé la nuit agenouillé à son chevet, et il a prié toute la nuit. Et le lendemain, elle était guérie. Et cette femme, elle avait jamais entendu parler vraiment de guérison, tout ça. Mais quand je parlais de ce que je faisais, elle me disait « Ah, mais je comprends, parce qu'effectivement, j'ai été témoin de cette guérison qu'ils ont appelée une rémission spontanée, enfin un truc inexplicable. » Donc il y a plein de façons qui fait que la guérison se passe.
Est-ce que...
Mais il y a toujours une transformation.
Pour, par exemple, pour toi, Bénédicte, lorsque tu mentionnes que tu as ton problème de peau, des verrues que tu avais pu avoir lorsque tu étais jeune, à 23 ans, donc si j'entends ce que nous décrit Annick, il s'agit d'abord d'une compréhension du pourquoi j'ai en l'occurrence il ne s'agit pas de comprendre le pourquoi l'événement de conscience.
Non, ce n'est pas nécessaire de comprendre. C'est vrai que la compréhension, elle peut venir après ou pas du tout. Ce dont parlait Annick, c'est plus réaliser comment une tension est arrivée jusque sur le corps physique. C'est une tension qu'on vit d'abord dans sa conscience et qui s'amplifie et qu'on n'écoute pas et on reste dans cette tension jusque tant que ça vienne sur le corps physique. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir si la guérison se met en place, qu'on relâche les tensions, de ne pas recréer les mêmes tensions. Donc c'est pourquoi avec la méthode corps-miroir, on apprend à travailler sur le système énergétique, à travers donc les centres énergétiques, les chakras, etc. Mais aussi, on apprend à donner un feedback, un retour d'information par rapport à ce que je vois quand je donne la guérison, ce que je fais dans le système énergétique. Et là, c'est ce que ça peut vouloir dire. Et donc, il y a ce langage corps-conscience, domaine de votre vie, qui a créé Martin et qui est extrêmement intéressant et qui est très juste. Et là, la personne peut s'aider de ce feedback pour dire, tiens, ouais, bon, là, ok, par exemple, la guérison se met en place, etc. Mais je vois bien que j'ai peut-être une sensibilité avec cette manière de fonctionner. Mmh. Et attention, je sens que quand je suis en train de retourner là-dedans, je ne veux pas y retourner. Donc, c'est voilà, de marcher conscient dans ses bottes. Et ça, c'est vraiment un plus, effectivement. C'est vrai que je suis organisatrice, donc j'ai envie de faire la pub. C'est un truc, j'ai envie de partager ce que je connais. Alors, bon, il y a peut-être je ne veux pas du tout faire prosélytisme ou de choses comme ça, mais c'est vrai que c'est une méthode qui est pour moi complète. Je l'ai rencontrée très jeune.
Tu l'as vécu, ben voilà.
Et j'ai connu d'autres guérisseurs, des personnes mais fabuleuses qui donnent des guérisons merveilleuses avec d'autres. Tu vois, Kesten Benzan, s'est rencontré, j'ai bossé un peu avec lui. Je te parle de lui parce que je sais qu'il est sur ton site, les Chipibos, etc. Grand guérisseur et tout. Cela dit, par rapport à notre culture occidentale en tant que Français, etc., et par rapport aussi au fait de prendre la responsabilité pour sa vie et de se dire, bah, c'est super, du coup, je peux changer les choses si ça ne va pas, alors ouais, cette méthode, elle est complète, elle est vraiment intéressante pour ça. Voilà.
Oui, c'est prendre conscience de la manière d'être qui avait créé le symptôme pour ne pas reproduire cette manière d'être.
Oui, mais c'est ce que je mettais en avant, mais ça peut être un processus. Alors, pour ce qui est de ton processus à toi, des éléments qui en 15 jours sont venus disparaître, de ces verrues, qu'est-ce que tu as été amené à comprendre ? Est-ce que ça s'est fait comme ça ?
Ça s'est fait comme ça. C'était bonheur.
Et dès le moment où la compréhension... C'est fait.
Non, là, je comprenais pas. J'avais pas une traduction intellectuelle. J'avais pas de langage. Juste, j'avais reçu tellement d'amour, ça, je l'avais ressenti. Et juste, je voyais le résultat. Je le voyais tous les matins en me levant. C'était, je voyais que voilà, et c'est tout. Et bon, j'étais minoute. J'avais 23 ans, donc je passais beaucoup par l'expérience. Et après, ben, comme Martin en plus, il proposait de la théorie là-dessus et un langage, ça m'a d'autant plus intéressée.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Tu nous dis que l'état de conscience qui a permis aux symptômes d'arriver est amené à disparaître.
Oui, tout à fait. Okay.
Donc, c'est là-dessus que je veux en venir. Sur cet état de conscience, est-ce qu'il s'est
avec
fait...
Avec du recul, ce que je peux te dire, c'est que je consommais beaucoup de drogues et des speeds. Voilà. Et c'était cette énergie de stress et speed, etc., qui créait en fait d'autres symptômes. Ça, je le savais pas, je l'ai compris plus tard avec du recul aussi, et avec ce langage méthode corps-miroir. Et de fait, effectivement, cette peau est devenue très belle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aussi, les autres, je les laissais me voir comme si j'étais belle. Ah, mais tiens, je me sens belle. Et il y avait vraiment une transformation à l'intérieur de moi. Voilà, évidemment. Ça, sur le moment, tu n'en as pas forcément conscience, soit parce que tu es jeune comme moi à l'époque, soit parce que, voilà, tu n'en as pas conscience. Mais le tout, c'est de le vivre et de s'installer là-dedans. Voilà.
Oui, c'est comme moi avec l'astigmatisme. Je veux dire, j'avais jamais fait de stage, j'avais jamais entendu parler de tout commence dans la conscience. Et à un moment donné, c'est vraiment une manière d'être qui crée un symptôme. Et puis, quand je suis revenue à la maison, quand je suis redevenue moi-même, le symptôme a disparu. Donc, il n'y a pas besoin de recevoir une guérison pour guérir un symptôme. C'est juste, encore une fois, on en revient à quantifier quand les gens ont besoin de comprendre et de le faire consciemment. Donc, par exemple, quand il y a un symptôme qui menace la vie, ou il y a des symptômes comme la vue, où la société a plutôt tendance à dire que ça va aller en se dégradant, donc les gens s'attendent à ce que ça se dégrade. Donc, quand il y a ce genre de croyances, donc c'est le moyen de voir les choses d'un autre point de vue, de manière à changer cette manière d'être et à revenir à la maison. Pour n'importe quel symptôme, on se retrouve, on revient à la maison.
Est-ce qu'il est... Ce qui est intéressant dans vos propos, c'est qu'une personne peut venir demander une guérison sans pour autant qu'elle ait la foi, la recevoir. Est-ce pour autant que ce changement de conscience va venir forcément ? C'est ce que vous dites ? Non, tant que la personne n'a pas changé son mode de pensée, sa vision de la vie... En tout cas, dans un secteur donné.
Tant qu'elle n'a pas guéri la cause dans sa conscience.
Voilà. Donc, ça va revenir, pourrait-on dire. Le symptôme pourrait être susceptible de revenir. Dans quelle mesure... on l'a entendu, celui-là. Dans quelle mesure est-ce qu'on est assujetti, puisqu'on parle de maladie, peut-être qui seraient transmises par nos aïeux, par exemple, tout ce qui a trait au transgénérationnel. M'a dit qu'il tend à être ton grand-père était pareil, et ainsi de suite. Dans quelle mesure, là aussi, la manière dont la méthode corps-miroir peut agir?
Dans notre façon de voir les choses, notre point de départ, c'est tout commence dans la conscience. Donc, quand il y a des symptômes qui se transmettent comme ça de génération en génération, on le voit comme des manières d'être qui se transmettent. Donc, les enfants, ils ont tendance à être comme des petits singes, ils copient. Il y en a certains, ça dépend aussi de la nature de l'enfant, de leur type de personnalité, leur esprit, ça dépend, ils peuvent s'identifier à l'un ou l'autre des parents, et s'ils développent la même manière d'être, ils sont plus propices à développer le même symptôme. Donc c'est la façon dont on interprète les choses, de façon à n'avoir... On a vraiment aucune limite.
Et après, c'est intéressant de regarder en fait vraiment à quel moment le symptôme a été découvert. Est-ce que c'est à la naissance ou est-ce que c'est, je sais pas, à 2 ans, 3 ans, 4 ans? Et c'est en fait assez rare. On s'est rendu compte que des enfants arrivent avec des symptômes à la naissance, sauf certaines que tu vois et tout. Mais souvent, ça arrive un peu après. Donc là, l'enfant, il est déjà en chemin. Et puis, voire même quand on porte un bébé, ce bébé, à l'intérieur, il vit déjà.
Alors justement, pour ce qui est des malformations, est-ce que le fœtus, là aussi, on met en avant soit le transgénérationnel, soit...
ce qui a pu se passer dans la vie des parents à ce moment-là, et la conscience du
des parents, ou de la mère, du père, au moment où la mère est à la grossesse.
Pendant qu'elle est enceinte. Et après, on peut parler karma aussi.
Pour nous, on parle de après. C'est on est une conscience à l'intérieur d'un corps physique, peu importe la grandeur du corps physique, et on répond à ce qui se passe autour de nous. Et quand on répond à ce qui se passe autour de nous, on dit ça, c'est une décision qui vient de l'intérieur. C'est nous qui choisissons comment répondre. Donc dans ce sens-là, on prend la responsabilité. Après, on peut comprendre pourquoi un enfant tombe malade avec telle et telle situation. Mais quand on prend la responsabilité, on dit, donner telle situation, voilà comment j'ai répondu à la situation. Donc ça peut être à l'état fœtus, à l'état adulte, il n'y a pas d'âge pour ça. Donc on regarde... quelles sont les circonstances de la naissance de l'enfant. Et quand on est à l'intérieur du ventre de sa maman, quand on est tout bébé, le monde il est très restreint. Et ce à quoi répond l'enfant, c'est la perception d'être aimé ou pas. Et ça ne veut pas dire qu'il est aimé ou pas. C'est la perception d'être aimé. Je me souviens d'une amie à Copenhague, où j'habitais, qui avait cette distance avec sa mère. Et quand ses parents se sont séparés, elle a décidé de vivre avec son père. Et elle me disait, ma mère ne voulait pas que je vive avec elle. Je lui dis, ah bon, mais elle te l'a dit? Non, mais j'ai bien compris. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'en parles pas avec ta maman? Et puis elle en a parlé avec sa mère. Et sa mère lui a dit, mais non, quand tu as dit que tu allais vivre avec papa, mon monde s'est effondré. Je me suis dit, elle ne m'aime plus et tout ça. Et en fait, sa mère s'est souvenue que quand sa fille est née... aussitôt qu'elle a accouché, ils ont mis l'enfant sur la balance, là, et puis il y a eu une urgence à côté, et tout le monde a quitté la pièce pour aller sauver la vie de la dame qui accouchait à côté. Donc il y avait la maman sur son lit, la petite sur sa balance, qui hurlait parce qu'elle était restée en plan comme ça, et sa maman était sur le lit, elle pouvait rien faire pour elle, parce qu'elle était scotchée sur son lit, et c'était comme si à ce moment-là, il y avait eu cette séparation. Et donc la petite fille grandit en se disant « Maman ne m'aime pas ». Et puis elle fonde toute sa réalité là-dessus. Et puis quand elles ont réussi à parler, ça a guéri leur relation. C'était « Ah mais non, il n'y a plus ce fossé ». Donc des fois, on interprète des situations et on répond à des situations de telle ou telle manière. Et quelquefois, ça ferme certains chakras, ça ferme certaines portes et ça crée des distances. Donc voilà.
Comment expliquer que certaines personnes soient plus sensibles au fait de ressentir les énergies que d'autres?
Je dirais qu'on est tous... Sentir les énergies, ça dépend de ce que tu entends par là. Il y a des gens qui sont très sensibles à l'empathie, par exemple. Moi, j'étais très, très sensible à un moment donné. Souvent, quand les gens, on appelle ça un chakra couronne fermé, il y a un sens de séparation avec le père, la personne ferme son chakra couronne et elle se sent isolée du monde. C'est un peu comme s'il y avait une carapace autour de la personne. Donc, c'est difficile de sentir le contact avec l'extérieur et c'est difficile pour l'extérieur de sentir le contact avec la personne à l'intérieur. Et le seul moyen de ressentir le contact, c'est à ce niveau de l'empathie. Donc, les gens. Qui ont un chakra couronne fermé ont tendance à ressentir facilement l'empathie. Mais c'est quelque chose dont on peut. Certains guérisseurs se servent aussi quand ils ressentent ce que l'autre personne ressent. Ça te donne en direct le feedback de ce que tu es en train de faire sur l'autre personne, tu vois, le travail que tu es en train de faire. Et puis, je crois que c'est aussi une question d'ouverture, de confiance. Je me rappelle mon père une fois, mon père c'est pagnol, hein, c'est paysan, très terre à terre. Et puis à une époque, ma mère avait des névralgies faciales et un jour il me raconte, il me dit, ta maman souffrait, j'ai passé ma main sur son visage et la douleur s'est arrêtée. Et il était très 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 ému. Et je lui dis, bah, tu vois, papa, tu as de l'énergie de guérison. Il m'a dit, je veux pas en entendre parler, ça va trop loin. Et il a voulu arrêter la conversation là. Donc il y a des gens pour qui c'est tout ce qui est non ordinaire, hein, tout ce qui est
Quand bien même, ça fait du bien.
oui, c'est trop, c'est pour eux c'est trop, mais
Ça
parce
relève, ouais.
que y a, je crois que c'est malheureux à dire, mais il y a quand même les religions ont fait pas mal de mal par rapport à ça. Hein.
Et pour revenir donc aussi à donc ta question par rapport à la différence de perception que les gens peuvent avoir en rapport à l'énergie, il y a ce fait qu'on est tous différents et qu'on a tous des sensations ou des perceptions qui sont différentes, et d'autres qui vont, certains vont ressentir l'énergie, par exemple, comme un courant frais qui passe à travers eux, l'autre, les mains qui cook, là, qui chauffe tellement, d'autres ça va être comme des petits électricités, etc., etc. Donc après il y a chacun sa manière de ressentir les choses, et puis on apprend ça pendant le stage corps miroir aussi, à ressentir l'énergie, et on voit bien que chaque participant a son feeling avec ça. Et après il y a aussi ce pareil, toujours si c'est un but pour toi, est-ce que tu vas faire grandir ça ou pas? Comme tu apprends à faire un gâteau, bah, si c'est ça te branche de faire le pâtissier, tu vas pas arrêter, et tu vas devenir super fonctionnel là-dedans. Si tu aimes juste en faire une fois de temps en temps, bon ben bah, voilà. Et on est tous aussi avec des rôles à interpréter dans cette société, et heureusement.
C'est ce que je disais, tu te rappelles la première émission qu'on a fait ici, je disais la guérison c'est comme faire du pain. Il y a des gens qui en vivent, et puis il y a des gens qui font leur propre pain, et il y a des gens qui
Qui
l'achètent chez
préfère
le
l'acheter.
boulanger. Bon, c'est un talent avec le. Je veux dire, on est tous des êtres d'énergie. Il n'y a pas que ceux qui sont dans cette recherche spirituelle et tout ça. On est une. Qu'est-ce que c'est ce bruit? On est une conscience à l'intérieur. C'est de l'énergie.
C'est de l'énergie. Le bruit, c'est de l'énergie.
Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, on a une conscience à
Conscience, on est de
l'intérieur
l'énergie en mouvement.
d'un corps physique et notre conscience, elle est faite d'énergie. Et cette conscience, elle ne s'arrête pas à la surface du corps physique, elle s'étend au-delà. Et c'est ce qu'on appelle l'aura. C'est cet aspect de la conscience qui s'étend au-delà du corps physique. Donc c'est pour ça qu'on peut être sensible. Il y a certaines personnes qui sont sensibles à ce qui se passe chez l'autre. Par exemple, des fois, tu es assis à côté de quelqu'un et puis tu peux sentir comment l'autre personne se sent.
L'empathie?
Oui.
Bon, c'est pas de l'empathie, c'est juste ressentir l'énergie. Tu ressens la conscience de la personne. Ouais, tu peux sentir si elle est sans sentir l'empathie. C'est quand tu fais un avec la personne et tu ressens tout ce qui se passe au niveau physique. Quelquefois, ça peut être juste ressentir l'émotion, ce qui se passe au niveau émotionnel. Quelquefois, tu t'assieds à côté de quelqu'un et tu te sens mal. Tu te lèves et tu te sens mieux, ou quelquefois c'est tu t'assois à côté de quelqu'un et c'est joyeux on
Ça fait
se.
combien de temps que vous n'avez pas été malade toutes les deux?
Ouf. Eh ben non, moi en janvier. Et voilà, j'étais pas si bien que ça. Et ben je me suis même fait un rhume et c'est tombé sur les poumons. Je le disais à Nick, ça faisait longtemps. Et j'étais fou, c'était dur.
Moi j'ai eu mal aux pieds parce qu'on a des. Si, ben, l'avantage c'est Ça me fait penser à mon fils, Edouard. Hier, il était un peu, il avait un peu le nez qui coulait, il devait être en insécurité par rapport à ses devoirs. Il me dit, maman, je ne veux pas aller à l'école. J'ai dit, Edouard, tu vas à l'école? Il me dit, oh oui, mais Philippot, il peut manquer l'école. J'ai dit, mais Philippot, il est malade. Je dis, moi, je n'ai jamais le droit de manquer l'école. Alors, j'ai dit, genre à mon mari, quand il sera grand, il dira, mes parents, ils sont guérisseurs, j'en ai marre, je ne peux jamais manquer l'école. Alors, moi j'avais mal aux chevilles ces derniers temps. On a déménagé de Copenhague, on s'est réinstallé dans le sud et tout ça. Et c'est vrai que bon, ça fait beaucoup, c'est chakra racine, c'est la maison, le travail, ça, il y a plein de chamboulements.
Et des fois on reste un peu bloqué dedans et ben, voilà, on a beau méditer, tu sais, ça revient et poum, allez.
C'est l'avantage d'avoir... un guérisseur à la maison. Mais je pensais aux verrues.
Mais j'aimerais... Ah oui, ah, oui
non, parce que hier, j'avais cette verrue qui avait poussé, là. Et puis hier, j'ai utilisé les formes pensées. On travaille avec les formes pensées aussi, comme les médecins, Philippe, les médecins au menu qui travaillent à la... Nous, on fait ça, on le sent. Hein. Et donc, je l'ai enlevé. Et puis là, je constate, il ne reste presque plus rien.
Super. Tu sais, je ne sais pas, moi, qui nous écoute. Hein. J'espère qu'il y a quand même quelques personnes qui nous écoutent, mon cher Laurent. Mais quand je prends un peu de recul par rapport à tout ce qu'on vient d'exprimer, il y a toujours cet aspect corps, conscience et énergie qui est là. Et je me suis rendu compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui intellectuellement te disent « oui, je sais », mais qu'il y a un paradoxe dans leur tête, dans leur compréhension entre le monde spirituel et le monde matériel et physique. Quand tu prenais l'exemple d'un bébé, par exemple, qui arrive avec une déformation, et je t'ai dit, on parlera de karma après en rigolant, mais on peut voir ce symptôme ou ce problème, effectivement, d'un point de vue spirituel, il y a des croyances qui disent que il a ramené ça avec son karma, etc. etc. Et là-dessus, effectivement, tu as des médecins qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est génétique. Et ils peuvent aussi le prouver que c'est génétique, hein. Ils sont bien avec ça, quoi. Mais l'un n'invalide pas l'autre, et les deux vont ensemble. Et voilà, et j'avais juste envie de, voilà, comme de ramener les pièces,
de rassembler
les choses, de relier les choses. Et cette méthode corps-miroir, même si aussi il n'y a pas forcément de symptômes physiques, il y a peut-être des déséquilibres juste dans sa vie, c'est pas aller jusque sur le plan physique, mais permet de se remettre en harmonie. Hein, et de... Parce que c'est ça, en fait, c'est d'être en harmonie. Le but du jeu, je pense, pour tout le monde. Hein.
Peut-être on peut dire comment les symptômes se créent.
Mais avec plaisir.
on dit que on a plusieurs niveaux de conscience. Hein, et un de ces niveaux de conscience, c'est l'intuition, l'écoute de notre intuition, cette petite voix intérieure ou l'instinct. Martin nous fait rire toujours. Il dit que la différence entre l'instinct et l'intuition, c'est que les femmes ont de l'intuition et les hommes ont de l'instinct. Donc on écoute cette petite voix intérieure et elle parle un langage très très simple et on nous dit qu'on peut lui faire confiance les yeux fermés, dans le sens où elle nous amène vers la réalisation de tous nos buts. Donc à un moment donné, on fait un pas sur la droite et ça fait un. Et puis on se dit, on écoute et puis on dit, bon, je vais aller... de l'autre côté, et là c'est y a un bon sentiment, hein. Et évidemment on est libre et on peut choisir d'aller dans la voie qui n'était pas agréable pour X raisons, hein. Ça peut être parce qu'on ne se sent pas libre de faire marche arrière, ou on s'est engagé à se mettre ensemble avec ce mec par exemple, ça me rappelle des souvenirs, et si on n'écoute pas cette petite voix, le premier niveau de communication, la petite voix doit se faire plus forte, et le niveau suivant c'est le niveau émotionnel. Et on commence à ressentir des émotions qui ne sont pas agréables. Et là, on peut dire, ah ok, j'arrête, j'aurais dû m'écouter. Et chaque fois qu'on dit j'aurais dû m'écouter, ça veut dire qu'on l'avait entendu, cette petite voix. Sinon, on ne pourrait pas dire j'aurais dû m'écouter. Donc si on comprend le message, on dit ok, j'arrête, je vais dans l'autre direction. Et là, il y a cette impression de surfer sa vie, de libération. Hein. Et si on n'écoute pas et qu'on continue, dans cette voie de la résistance, la petite voix doit se faire plus forte. Et le niveau physique, c'est le niveau suivant de communication. Donc on est guidé dans une expérience où on va développer un symptôme, et le symptôme, il doit se réaliser, se matérialiser dans le monde physique. Donc ça peut être un accident, ou ça peut être un microbe, une maladie. Et le symptôme concret parle un langage et il décrit le point de vue que tout commence dans la conscience et qu'on se fait au sens propre ce qu'on se fait d'abord au sens figuré. Et si on comprend le message, on transforme les choses dans sa conscience, le symptôme a rempli sa mission, et c'est là que la personne guérit et continue sa vie. Donc quand les personnes continuent dans la voie de la résistance, elles meurent. Et quand elles changent de direction, comme dirait Martin, elles meurent, mais plus tard et en bonne santé. Parce que la mort, ce n'est pas un symptôme. Okay, donc j'ai un exemple comme ça, que si on a le temps, j'aimerais bien le donner, parce qu'il est très très parlant, je le raconte dans tous mes stages. Et quand j'étais assistante sociale, j'avais ce client marocain, et un jour il est tombé au travail, et il était en soins intensifs à Marseille, donc j'ai trouvé le prétexte que j'étais son assistante sociale pour aller le voir. Et il était paralysé de la poitrine jusqu'en bas, et on lui avait dit qu'il allait passer le restant de sa vie allongé. Et quand il était en soins intensifs, je l'ai rempli de lumière blanche, j'ai fait une guérison à la lumière blanche, et dans la semaine qui a suivi, il a retrouvé les sensations jusqu'au périnée. C'était considéré comme un miracle. Donc il pouvait s'asseoir, il était sur un fauteuil roulant après ça. Et quand il est rentré à la maison, je lui ai donné ce qu'on appelle la guérison classique du système corps-miroir avec les chakras et tatata. Et après lui avoir donné la guérison, je lui donne le feedback, je lui raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, etc. Et évidemment, je lui dis, vous êtes paralysé vous-même. Et là, il a ouvert de grands yeux, et il m'a dit, vous n'allez pas me croire, mais au moment où je suis tombée, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'aimerais rentrer chez moi, mais jamais je pourrais faire ça. Et donc cet homme, il est marocain, et quand il a grandi au Maroc, c'était le seul à savoir lire et écrire, donc il avait une certaine aura, les gens venaient le voir pour remplir et lire des lettres et tout ça. Et quand il est arrivé en France, il était dans ce village du sud de la France, et il travaillait dans une entreprise de travaux publics, et il était considéré comme rien du tout, pour être poli. Et il était en train de se dessécher, cet homme, il était en train de mourir. Et ses filles étaient nées en France, donc elles étaient bien intégrées. Avec l'argent qu'il gagnait en France, il pouvait nourrir son papa et sa maman au Maroc. Et pour lui, repartir au pays, c'était déraciner ses filles, c'était plus avoir l'argent pour nourrir ses parents. Et c'est là qu'il est tombé. Et il a compris le message. Il était fabuleux, cet homme, parce qu'il me disait, depuis l'accident, tous les jours, je me vois en train de marcher. Et la dernière fois que je l'ai vu, il faisait de la rééducation à Montpellier pour marcher. Donc il est passé d'un diagnostic où il allait rester allongé toute sa vie à un pronostic de pouvoir remarcher. Mais il a compris, il a fait des changements dans sa conscience. Et donc c'est comme ça qu'on voit les choses. Après, quand on fait le stage, c'est vrai que le stage, il est construit de manière évolutive. C'est un peu comme une maison qu'on construit. Donc les gens, ils ne sont pas plongés dans ce truc, tout commence dans la conscience comme ça. C'est progressif, c'est progressif. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux gens à se voir de plus en plus et à faire l'expérience d'eux-mêmes comme un être d'énergie. Et là, une fois qu'ils ont cette expérience, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas quelque chose qu'on leur dit, c'est quelque chose... On commence par l'expérience et après, il y a les explications. C'est pas les explications qui suggèrent l'expérience. On commence toujours par l'expérience. Et une fois que la personne en a fait l'expérience, la porte s'ouvre et il y a cette foi dans cette façon de voir les choses, hein, que tout commence dans la conscience. Et là, alors... On voit en grand, on voit en détail les symptômes, et il y a d'autres expériences de méditation, d'expériences qu'on appelle non ordinaires, hein, guérison les yeux dans les yeux, qui est extraordinaire dans tous les sens du terme, etc. Béné.
Non, c'est très très bien dit.
C'est l'heure d'une pause.
Voilà.
Je l'ai lu dans ses yeux.
Aujourd'hui avec nous, Annick et Bénédicte, pour nous parler de la méthode corps-miroir de Martin Brofman, et là, notamment la fondation qui l'a créée. Vous souhaitez en savoir plus, voici un numéro de téléphone, celui de Bénédicte, numéro de fixe, le 01 47 70 66 87, que je répète, le 01 47 70 66 87, deux sites internet www.healer.ch, healer qui veut dire guérisseur en anglais, H-E-A-L-E-R, healer.ch, et pour ce qui est de la France, www.benergie.fr, benergie tout attaché, .fr, vous ne mettez pas d'accent bien entendu, B-E-N-E-R-G-I-E, benergie.fr. Annick et Bénédicte vous proposent différents événements sur Paris, je vous les donne donc de suite. Il s'agit d'une conférence qui sera donnée le vendredi 22 mars à 20h, Paris 9e, sur la présentation du système Cormiroir. Alors, pour tous les événements, de toute façon, l'adresse reste la même. Bénédicte, donc.
C'est à l'hôtel Mercure, 5 rue de Montillon, dans le 9e arrondissement.
Merci. Donc, le vendredi 22 mars à 20h. Ça sera suivi d'un atelier de la vue qui aura lieu le week-end qui suit, donc le 23 et 24 mars, à la même adresse. Autre événement, ça sera au mois d'avril, une conférence, le vendredi 19 avril à 20h, la thématique « Guérison avec la lumière blanche », conférence qui sera suivie d'un stage le week-end toujours qui suit, le 20 et 21 avril, stage donc sur la méthode du corps miroir. Voilà, je pense avoir tout dit. D'autres éléments que j'aurais éventuellement vous souhaité rajouter ? C'est magnifique. Bénédicte, Annick, vous avez mentionné donc alors soit travailler avec la lumière blanche, c'est un exemple, soit la visualisation. Dans quelle mesure est-ce qu'il est important de dans quelle mesure ils sont importants comme outils, puisqu'on a parlé des chakras, on a parlé de l'énergie, et dès le moment où on visualise, dans quelle mesure est-ce qu'on peut associer ça à de l'énergie, dans quelle mesure est-ce qu'on peut associer ça dans sa petite boîte d'outils comme des éléments, et comment expliquer que ça marche ?
Dans notre société, on dit à ce qui est imaginé et à ce qui est réel, et ça implique que ce qui est imaginé n'est pas réel. Et en fait, ce qui est imaginé, c'est aussi réel que ce qui est physique. Et quoi qu'il en soit, c'est pour ces raisons-là hein, que ça marche. Mais si on regarde, il y a des outils qui ont fait leur preuve, la visualisation créatrice, par exemple. Ça, c'est des outils qu'on utilise dans l'atelier de la vue, où notre cerveau, c'est un générateur d'électricité. Et là où on dirige notre attention, les images que l'on maintient dans sa conscience, ce sont celles qui ont plus tendance à se réaliser. Donc quand on parle de visualisation créatrice, on imagine par exemple une scène dans le futur où on va voir son médecin et le médecin dit « je comprends pas, votre vue s'est bien améliorée, tatata ». Les sportifs utilisent ça, ils ont fait toutes ces expériences aux États-Unis hein, où il y avait cette équipe sportive qui faisait un entraînement physique classique et puis l'autre qui visualisait la victoire et c'est eux qui ont gagné. Donc quand on parle avec le système corps miroir de visualisation, de lumière blanche, on préfère, là on préfère utiliser le mot imagination. Parce que quand les gens, on leur parle de visualisation, ils s'imaginent qu'ils ne vont pas être capables. C'est technique. Tandis qu'imagination, c'est plus facile. Et c'est la même chose, donc c'est avec le même principe. Mais c'est avec cette idée que nos perceptions créent notre réalité. Donc si tu veux, avec les chakras, nous on utilise le langage des couleurs. Les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel, parce que les chakras, c'est une séquence de 7 vibrations dans un ordre mathématique, et que les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est la même chose. Et si tu veux, pour nous, quand on remet le chakra racine dans son état d'équilibre, on le rend rouge. Mais pendant qu'on est en train de mettre le rouge dans le rouge, si un moine tibétain regardait ce qu'on est en train de faire avec ses propres perceptions à lui, ce qu'il verrait en même temps, ça serait ces fleurs de lotus et ces éléphants. Je me souviens plus à quoi ça ressemble, un chakra dans son état d'équilibre dans leur modèle à eux. Donc, si tu veux, c'est juste une façon de créer quelque chose avec ses perceptions. Donc, on extériorise une perception et la personne est d'accord pour être ouverte à ça.
Ouais, juste pour parler avec cette lumière blanche, en fait,
C'est juste deux mots, lumière blanche, c'est les mots les plus proches qu'on ait trouvés pour décrire ce dont il s'agit. C'est, je dis toujours, c'est comme une intégrité, c'est le tout. Et par exemple, si tu vas prendre un diamant ou un prisme, quel qu'il soit, je sais pas, une goutte d'eau, à travers cette lumière de la vie, cette lumière du jour, ça va décomposer les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est logiquement ordonné, une séquence qui est de plus en plus dense, qu'on va associer donc chakra racine, le rouge, la matière, le corps et tout, jusqu'à la couleur la plus subtile qui va être le violet et qu'on va associer donc à l'âme, etc.
La lumière blanche, comme disait Bénédicte, c'est l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, hein, donc ça représente quelque chose de complet. Et ça correspond à ce qu'on veut créer avec la guérison, ce sens de complétude. C'est un puzzle où il manque aucune pièce. Et on fait cette expérience tout le temps, tout le temps. Il y a des fois où on fait cette expérience où il n'y a rien qui manque. Et quelquefois, ça peut durer une seconde, deux secondes, 10 minutes. Et l'idée, c'est que ça dure, que ce soit un état habituel et permanent. Et donc la lumière blanche, c'est aussi cette lumière intérieure que l'on associe au niveau le plus profond de la conscience. À chaque chakra, il y a un élément qui est associé. Donc chakra racine, c'est la terre, c'est l'élément le plus dense, hein. Et l'élément le plus subtil, c'est cette lumière intérieure. Et les gens qui font cette expérience proche de la mort, c'est ce qu'ils décrivent, hein, et donc ça représente le niveau le plus profond de notre conscience, ce niveau de nous qui voyage de vie en vie, et ça représente, comme disait Bénédicte, cette intégrité, cette complétude, et c'est qui on est au plus profond, c'est cet être de lumière au-delà des symptômes, et etc. Donc quand on imagine la personne remplie de lumière blanche, ou quand on utilise la visualisation avec la lumière blanche, l'état de conscience dans lequel ça nous met,
ça veut dire que c'est vrai.
c'est que ça nous remet dans cet état de conscience où on est entier. Donc c'est pour ça qu'on utilise la lumière blanche.
Tu parlais tout à l'heure de ce début de verrue qui poussait,
ouais,
sur ton...
Combien
de temps t'as visualisé?
Oh ben ça, après c'était dans l'avion. Non, c'était ce matin alors que j'ai fait ça. Oui, ça, 3 secondes. Mais là, on travaille vraiment avec aucune limite, tu sais. Je pourrais raconter des histoires à succès incroyables. Et une fois qu'on a ouvert la porte et si on l'ouvre, il n'y a vraiment, vraiment aucune limite, aucune.
Quelques petits exemples, hein, je pense que pour les auditeurs...
Les seules limites... déjà cet homme, hein, qui devait rester allongé toute sa vie et qui maintenant fait de la rééducation pour marcher, ou cette femme qui était aveugle, après une guérison, elle voit clair. Il y a juste des guérisons qui sont spectaculaires, parce que on travaille avec aucune limite. Une des guérisons que j'aime bien, c'était dans un stage en Turquie. Il y avait cette dame qui venait du Koweït, cette jeune femme, et donc elle était dans le stage et elle dit que elle est née sans utérus. Alors Martin lui dit, ah bon, mais quand est-ce qu'on t'a dit ça? Ben, quand je suis allée voir le gynéco pour la première fois, j'avais 16 ans, et il m'a dit que j'étais née sans utérus. Et donc on regarde toujours qu'est-ce qui se passe dans la conscience de la personne, et donc on lui demande, mais est-ce que tu n'as pas pris la décision à un moment donné de ne pas avoir d'enfant? Et là, elle fond en larmes, parce que son enfance, une femme au Koweït, elle avait fortement décidé de ne pas être maman, fortement décidé. Et ça lui a énormément parlé. Quoi qu'il en soit, pendant le stage, elle n'avait jamais eu ses règles. Donc pendant le stage, elle a commencé à avoir des saignements. Elle a commencé après ça à avoir ses règles tous les 3-4 mois, puis tous les 2 mois, puis tous les mois. Et quand elle est retournée voir le gynéco, ça devait être peut-être un ou 2 mois après le stage, je ne sais plus. Et il lui a dit qu'elle avait un utérus, mais qu'il avait la taille de l'utérus d'un bébé. Donc Martin lui a dit, c'est normal, tu viens de le créer. Donc il y a des guérisons comme ça où c'est... C'est juste spectaculaire. Et toutes ces guérisons spontanées dans les hôpitaux aussi. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Et c'est parce que bah, les hôpitaux, ce sont les endroits propices à la transformation. Quand les gens sont allongés sur leur lit, ils sont sortis de la situation qui est source de stress. Ils font le point sur leur vie. Et puis, c'est un endroit où les gens reviennent à la maison, à l'intérieur. Parce qu'ils sortent de... Et quand ils font cette transformation à l'intérieur... Le symptôme a rempli sa mission. Parce que le but du symptôme, c'est juste donner à la personne un message. Quand la personne comprend le message, le symptôme peut se relâcher. Et il se relâche en fonction de ce que la personne croit être possible.
Et cette jolie histoire a un succès parce que ça va aussi nous permettre ensuite de parler un petit peu plus de la vue et la vision.
Ah oui, c'est vrai.
Si tu en as envie. Mais quand même, je pense à lui, Abel. Oh, il est arrivé à la maison. Il venait d'Auvergne, sa mère me l'emmène. Écoute, il était bigleux, je ne peux pas te dire. Il avait des carreaux comme ça. 11 ans et il avait 2 ans d'avance à l'école. Un petit génie, quoi. Et elle venait aussi pour sa maman, pour guérir d'autres symptômes qu'elle a également guéri. Et voilà. Et quand je lui demande des nouvelles 6 mois après, quoi. Et Abel, sa vue, il en est où? Ah mais non, mais il porte plus de lunettes, on a refait les examens chez l'ophtalmo, et sa vue est parfaite, et c'est comme une évidence qui est là, etc. Ça fait plaisir, c'est super, surtout un petit bout en début de vie comme ça, tu vois. Il avait une forte astigmatisme, et son père avait eu ça, son père était parti, décédé peu de temps avant, et il y avait tout un contexte hein, où il commençait à développer une personnalité un peu distordue. Et puis voilà, et puis par rapport à sa maman qui, elle, avait un micro-adénome à l'hypophyse et qui donc a refait, bon, et puis la thyroïde aussi, des problèmes avec sa thyroïde du coup, et qui refait des examens. Ça faisait quand même 15 ans qu'elle prenait un certain nombre de médicaments qui, bon, pour elle, elle aurait dû les prendre à vie. Et quand ils refont donc l'IRM et tout le tralala, ils ne trouvent plus du tout. Ils disent, voilà, c'est qu'il n'y a jamais eu. Et puis, voilà, on ne peut pas dire plus. Et bon, c'est comme ça. Et, ouais, ça fait plaisir tout ça. C'est assez agréable. Donc, par rapport à la vue et à la vision, non, Amine, vous en parlez super bien.
Non, juste pour les histoires à succès, si les gens veulent aller sur le site...
Ouais.
Il y a une page Histoire à succès. Alors, je ne sais plus sur le site en français, c'est Philippe qui les met. Je ne sais pas s'il y en a énormément. Mais si les gens lisent l'anglais sur notre site anglais, il y en a par catégorie.
Si, ils sont classés, c'est ça. Il a fait le job super bien, Martin.
Ouais.
Donc par symptômes vraiment, et tous les histoires à succès. Sur Bénergie, j'ai mon petit livre d'or également. Enfin, ouais. Petit, il commence à être conséquent. Il y a plein de gens qui témoignent, quoi. Et puis, quelles que soient les guérisons.
Ouais. En fait, s'ils lisent l'anglais sur le site en anglais, il y en a des pages, quoi. Donc, c'est vrai que on les met, ces histoires à succès, parce que quand quelqu'un veut guérir un symptôme et qu'il sait que quelqu'un d'autre dans le monde a guérir du même symptôme, ça encourage.
Ça encourage.
Ouais. Donc, par rapport à la vue.
Ouais. Par rapport à ça, les symptômes, puisqu'on en parle, hein, et la vue, mais moi, j'ai toujours une très bonne vue, parfaite. Et en fait, il y a 3 ans, je crois, c'était quelque chose comme ça, j'ai commencé à voir un petit peu flou, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Je suis allée faire c'était il y a 4 ans, diagnostiquer, et l'ophtalmo me dit, vous avez un bon astigmatisme de l'œil gauche. Et puis alors, depuis que vous êtes enfant, vous deviez avoir tellement mal à la tête. Et moi, je la regardais, je ne comprenais rien, mais j'avais ce résultat sur papier. J'ai bien compris à quoi ça correspondait dans ma vie. Hein. Il y a cette polarité gauche-droite. Je suis gauchère, donc c'était mon côté masculin. Et c'était mon œil gauche qui avait une vision un petit peu distordue. Et c'était peut-être comment je voyais l'homme dans ma vie.
Peut-être.
Peut-être. et puis de relâcher des tensions à ce niveau-là. Aussi de voir ma volonté, de voir clairement ce que je veux. Et d'être tranquille avec ça. Genre au restaurant, pas rester 3 heures devant la carte. Hein, voilà. Ensuite, je suis allée. Quand je me suis sentie OK avec ça, ma vision était claire, mais quand je me suis sentie OK avec ça, je suis retournée voir un premier ophtalmo, un autre, un deuxième ophtalmo, qui, votre vue est parfaite, etc., etc., avec le papier, évidemment. Hein, donc, tout ça, c'est.
C'est aussi vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la conscience. Et un symptôme peut arriver et repartir. C'est pas quelque chose...
Oui, la vue, surtout, ça fluctue.
Hein. Ça fluctue. Mmh. Et pareil pour la presbytie. Je voyais... Alors là, je vais prendre un petit coup de vieux. Ça, c'est vrai. La fin d'année, j'avais des pensées. Je voyais bien que je me sentais pas au top. Et ma vue de près commençait à baisser. Il y a cette croyance qui dit que à partir de 40 ans ou quoi, la vision de près, elle baisse. C'est normal. C'est pour tout le monde, etc. Et quand on regarde, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la conscience de la personne, au lieu de mettre de l'énergie, si tu veux, sur elle, et elle va
parler en détail des symptômes de la vue.
Je termine la phrase et foot. Ouais. Voilà, comme ça, ça va introduire pour tous les symptômes. Elle maîtrise, elle est maître de ça, elle enseigne. Hein. Ouais, et donc par rapport à ça, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans la conscience de la personne. Quand je voyais clair à nouveau, je me sentais dans un état où effectivement, ce qui était important pour l'autre était aussi important que ce qui est important pour moi, et d'être dans cette valeur-là. Et que quand je voyais flou de près, ce qui était important pour moi était toujours moins important que ce qui était important pour l'autre. Tu vois, c'est des petites prises de conscience qui sont intéressantes à noter. Et puis ensuite, de rester là-dedans tranquillement, quoi. Mmh. Donc Annick va nous faire le
oui, listing. Rapidement, parce qu'il
nous
voulez.
Reste... Pardon.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je sais pas
marre,
si...
Il est mort.
Non, mais c'est super, tant bien. Bah, Annick, on t'écoute.
Et voilà.
Non, je sais pas, parce que moi, je me mets à la place des auditeurs. Et voilà. Ils doivent se dire, moi, je suis myope, ça veut dire quoi? Et moi, je suis Anna, et moi. Donc rapidement. Avec les gens qui ont de la myopie, ils voient mieux ce qui est près, et ils ne voient pas ce qui est loin. Donc la direction de leur attention est vers l'intérieur. Et on dit vers l'intérieur, loin d'un monde qui est perçu comme menaçant. Donc la personne regarde le monde à travers un filtre perceptuel, émotionnel de peur ou d'insécurité. Et donc c'est un symptôme qui apparaît dans la vie de la personne à un moment donné où elle se met à l'intérieur. Là, ça peut être quand elle va à l'école pour la première fois ou il y a un divorce. Donc c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passait dans sa vie quand le symptôme est apparu. Moi, j'ai fait l'expérience d'une myopie très très forte pendant quelques heures à un moment donné où je devais traduire un interview de Martin à la radio et j'avais une peur bleue de maintenant j'adore ça, mais à l'époque j'avais une peur terrible. Mais quand j'ai fait cette expérience de la myopie avant d'aller au studio, je me suis pas dit ça y est, je suis myope. Je savais que c'était lié au stress, vraiment le gros stress, la peur d'aller faire cette traduction. Et je me suis dit, bon, ok, ça va être comme à chaque fois que tu fais quelque chose pour la première fois, il y a cette insécurité, et puis ça passera. Et j'ai commencé à parler dans le micro, j'ai trouvé ça vachement agréable, en fait. Et puis, quand l'interview a été terminée, ma vue était redevenue normale. Mais c'était une myopie très, très forte. C'était genre, je voyais à 2-3 mètres, il n'y a plus rien. Hein. Et puis, donc, il y a cet élément avec la myopie, avec le type de personnalité où, quelquefois, pour cacher cette insécurité, pour cacher cette timidité, la personne peut avoir tendance à être très extravertie et très à en faire trop. Hein. Et avec la presbytie ou l'hypermétropie, l'expérience visuelle, c'est que la personne voit ce qui est loin et ne voit pas ce qui est près. Donc l'attention, elle est dirigée vers l'extérieur. Et donc elle est en extension. Donc avec la myopie, la direction est vers l'intérieur. La personne dit ce que je veux, ce que je ressens, c'est plus important pour moi que ce que tu veux ou ce que tu ressens. Les autres sont vus comme une menace. Et avec la presbytie, comme disait Bénédicte, c'est le contraire. La personne met l'importance à l'extérieur. Ce que tu veux ou ce que tu ressens, c'est plus important pour moi que ce que je veux ou ce que je ressens. Et ça, c'est une manière d'être qui est plus facile à adopter avec l'âge, parce que c'est encouragé par la société judéo-chrétienne, et c'est aussi avec l'âge. C'est pas physique, c'est juste avec les valeurs de la société. Statistiquement, il y a plus de gens qui ont de la presbytie à tel âge, mais ça n'a rien à voir avec le côté physique, c'est avec la manière d'être que la personne associe. Donc tu arrives à l'âge de 40 ans et tu te dis, bon, je suis moins sexy, peut-être mon mari va vouloir changer contre deux de vin, et on donne plus d'importance à l'extérieur qu'à soi-même. Et le filtre perceptuel émotionnel à travers lequel on regarde le monde, c'est de la colère ou de la culpabilité. qui est de la colère envers soi. Donc avec la colère, la personne n'exprime pas ce qui est vrai pour elle parce qu'elle a peur de faire de la peine. Donc elle dit ce que tu ressens, c'est plus important que ce que je ressens. Donc la personne préfère se rendre malade plutôt que d'exprimer quelque chose. Et puis, on est dans une société où se mettre en colère, c'est pas vu comme quelque chose de positif, hein, c'est vu comme quelque chose de négatif. On n'est pas encouragé à exprimer ce qui est vrai pour nous. Et avec l'astigmatisme, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vision déformée des choses. Alors, dans l'atelier de la vue, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille à plein de niveaux différents. On travaille avec cette idée que tout commence dans la conscience et la manière d'être associée à la manière de voir, mais on utilise aussi des outils qui ont fait leurs preuves, comme la visualisation créatrice, la reprogrammation des idées limitatives. Donc, on va en alpha et puis on fait cette visualisation, cette reprogrammation positive. Et puis, on fait aussi des exercices de hatha yoga pour les yeux. Donc on travaille aussi au niveau physique, et ça c'est le premier jour. Le deuxième jour on s'envole, c'est d'autres dimensions. On parle de d'amour inconditionnel, de cette petite voix intérieure. On parle de karma aussi, donc on rentre dans des dimensions beaucoup plus spirituelles, mais pas dans le sens religieux, hein, spirituel dans le sens
subtil.
Voilà, et voilà.
Est-ce que tu as des questions, Laurent?
On inverse le rôle. Alors, Laurent,
qu'est-ce que tu en penses?
Vous êtes super toutes les deux, je vous assure, vous faites la paire. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, allez quand vous voulez.
Puis en plus, alors elle est en violet. Moi, je suis. Non, c'est pas rouge, c'est rose. Enfin, on est assortis.
Ouais, normal. T'avais pas des lunettes, toi, à un moment?
J'en ai jamais eu.
D'accord, j'avais cru, mais c'était peut-être...
Non, mais il est chauve, il a eu son chakra couronne fermé quand même, à un moment donné.
Merci.
Ça, c'était Annick dans ses grands moments.
On verra ça en tête-à-tête, tous les trois.
Non, là, c'est tous les deux, moi, j'y suis. Donc...
Merci de me laisser un peu de temps pour la question, quand même, c'est énorme. Oui, dernière importante, avant de faire la dernière
question. C'est un processus très joyeux de retrouver la vue.
Laisse-le parler, c'est son tour.
Ouais, c'est un processus très joyeux.
C'est pour ça qu'on est si joyeuse.
Ouais, d'être libre, d'être qui on est vraiment, plus dans des aspects du contrôle, parce que la vue, elle est associée au plexus solaire, et je voulais juste rajouter ça, et le plexus solaire, c'est tout l'aspect du mental, la liberté d'être soi-même, son propre pouvoir, c'est aussi les aspects du contrôle, et des personnes qui ont des symptômes au niveau de la vue, au niveau des yeux, ce sont des personnes qui ont des tensions dans leur plexus solaire, donc dans ces domaines-là de leur vie, et qui bien souvent expérimentent beaucoup de contrôle au lieu de ressentir cette liberté d'être qui ils sont. Et donc dans ces ateliers et avec le fait de faire ce voyage intérieur pour avec comme but de voir clair, c'est aussi ça t'amène, si tu veux, le fait de te retrouver vraiment qui tu es, mais libre d'être qui tu es. Mmh. Et c'est vachement agréable. Voilà. Pourquoi ?
Et questions ? Il y a des gens qui veulent poser des questions.
Ben c'est trop tard.
C'est trop tard.
C'est trop tard.
Venez à la conférence. Venez aux conférences.
Je pense que c'est plus intéressant. Juste une dernière question que j'estime importante sur le fait de la pollution environnementale. Ah. Dans quelle mesure est-ce que cela avait un impact sur le corps physique et qu'est-ce que vous en pensiez au vu de.
Pour nous, c'est tout commence dans la conscience. Absolument. Et on peut être à l'effet ou on peut décider de ne pas l'être. Et c'est notre point de vue.
Fin de cette émission avec la dernière page promotionnelle. Voilà. Avec nous ce soir, Annick et Bénédicte pour nous parler de la fondation Brofman, de Martin Brofman, de la méthode corps miroir. Pour en savoir plus, voici le numéro de téléphone fixe de Bénédicte, le 01 47 70 66 87, que je répète, le 01 47 70 66 87, numéro de téléphone que vous pourrez retrouver sur le site www.benergie.fr, Benergie tout attaché en un mot, .fr, B-E-N-E-R-G-I-E. benergie.fr, le site anglais healer.ch, healer qui est guérisseur en anglais, H-E-A-L-E-R, healer.ch. Différents événements vous sont proposés pour le mois de mars et avril, ça sera à Paris, Le premier de ces événements, c'est une conférence de présentation, le système Cormier-Roire. Ça a lieu donc le vendredi 22 mars à 20h dans le 9e arrondissement à Paris, ainsi que tous les événements que je vais donner. Cette conférence sera suivie de l'atelier de la vue, qui aura lieu le week-end du 23 et 24 mars. Pour ce qui est du mois d'avril, il y a une conférence le vendredi 19 avril à 20h, la thématique guérison avec la lumière blanche. Cette conférence sera suivie d'un week-end de la méthode Cormier-Roire, le week-end du 20 et 21 avril. L'adresse, tu nous le rappelles un petit coup, Bénédicte ?
Oui, c'est l'hôtel Mercure, 5 rue de Montyon, dans le 9e arrondissement. Juste, j'ai encore une seconde, je crois qu'Annick, tu voulais dire moi je voulais parler de l'intensif qui commence mercredi à Nice. Oui, voilà. Oui, Martin donne un stage en France là maintenant. Donc au cas où.
Trois précisions. Le site, il n'est pas qu'en anglais.
Il est en français, sur ce site, il est traduit en 7 ou 8 langues.
Deuxième truc, pour les symptômes de la vue, il y a toutes sortes de symptômes de la vue, pas ceux seulement dont j'ai parlé. Et oui, Martin enseigne un stage à Nice du 20 au 24 mars.
Ce mercredi qui arrive.
Donc jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche, merci Béné.
Ouais.
Et donc, si ça vous intéresse, allez sur le site, notre calendrier des stages, où vous pouvez appeler Béné,
voilà, elle me passera toutes les infos, bien sûr. Tout
donc,
ça.
Donc voilà. Merci Laurent.
Merci Laurent, c'est encore super.
Merci à vous mesdames. Pour celles qui se posent la question, en tout cas, on se retrouvera le jeudi 19 septembre.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et puis si tu as besoin de quelqu'un pour te remplacer à la radio des fois,
je fais appel à vous deux. Nous
avons volontiers.
Pas de soucis. Avec cette belle énergie, là, ça va super sympa. Un grand merci d'être
venu.
Merci à
tous.
À bientôt.
Merci à tous. Au revoir.
Merci à tous.
La suite sur ici-maintenant.com, puisque nous quittons la bande FM, l'occasion pour vous d'écouter ou de réécouter sur internet l'émission d'hier soir, et retour sur la bande FM à partir de 23h. 23h en ce quoi ? On est mercredi. 23h, mercredi, c'est Clara et son antenne libre. Bonne soirée à vous tous, au revoir.